Il est 23h à Paris, 1h de Mans, temps universel, 18h à Fort-de-France.
24h en France sur RFI.
Merci d'écouter RFI, la radio du monde. C'est parti pour 30 minutes d'actualité française.
Alban Le Prince.
Et à la une ce soir, le manque de conviction et d'optimisme des politiques au lendemain de l'annonce d'un conclave de 3 mois sur la réforme des retraites. Le spectre d'une motion de censure plane toujours pour le gouvernement. La colère aussi des députés mahorais. Le projet de loi d'urgence pour Mayotte passe complètement à côté du sujet de l'immigration, pourtant nécessaire selon eux. Au sommaire également, la suite du procès de Nicolas Sarkozy pour le financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Aujourd'hui, les juges l'ont interrogé sur son voyage en Libye 2 ans plus tôt. Compte rendu d'audience dans ce journal. Et puis on terminera avec du foot et la victoire inattendue d'un petit poussé ce soir en 16e de finale de la Coupe de France. Bourgoin-Jallieu a éliminé Lyon au tir au but.
24 heures en France.
30 milliards d'euros d'économies, c'est l'effort historique demandé aujourd'hui par Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, au lendemain de la déclaration de politique générale de François Bayrou, le Premier ministre qui a fait 2 concessions aujourd'hui au Parti socialiste pour tenter d'éviter la censure. Il renonce à la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale et promet de soumettre au Parlement un accord même partiel des partenaires sociaux sur l'explosive réforme des retraites qui fixe l'âge de départ à 64 ans. C'est sur ce sujet que les partenaires sociaux sont invités à discuter lors d'un conclave de 3 mois. Une nouvelle méthode de travail qui a du mal à convaincre les politiques. Charlotte Urien-Tomaca.
Officiellement, du côté de l'exécutif, on est confiant sur l'issue des négociations. Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
On fait confiance aux partenaires sociaux. Donc moi, je ne préempte pas un échec des discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont extrêmement bien placés pour négocier. C'est eux qui connaissent les mécanismes. Donc nous leur faisons confiance et nous parions sur la réussite de ces négociations.
Mais un ministre en première ligne sur les retraites le confiait à quelques journalistes. Il reste circonspect quant à la réussite de ce conclave. Et à droite, on a aussi du mal à y croire. Philippe Gosselin, député LR.
Moi, ce que je crains, c'est qu'on suscite beaucoup d'espoir et que l'espoir soit vain et qu'en réalité, dans 3 mois, on ait suscité beaucoup de crispations et qu'on se retrouve à la case départ.
Sans surprise, la France Insoumise estime qu'il s'agit d'une tactique de la part du Premier ministre pour gagner du temps, acheter le PS et ne croit absolument pas à une réussite possible. Antoine Léaumont, député LFI.
C'est de la poudre aux yeux qui est envoyée pour essayer d'obtenir des socialistes qu'il n'y ait pas de censure. C'est de l'enfumage.
S'il paraît donc difficile que les négociations puissent aboutir, il sera néanmoins compliqué pour les groupes politiques de faire l'impasse sur ces tractations.
Charlotte Urien-Tomaca, et les efforts consentis par François Bayrou ne semblent pas suffisants pour éloigner la menace d'une censure. Le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, a d'ailleurs répondu cet après-midi au Premier ministre.
Si les partenaires sociaux ne parvenait pas à un accord dans les délais fixés, il serait intolérable de revenir à la réforme de 2023. Le Parlement devra alors impérativement avoir le dernier mot et débattre de toutes les options mises sur la table par les partenaires sociaux, en particulier l'âge légal de départ, qui n'est pas un tabou pour vous, et la durée de cotisation. Nous voulons vous entendre clairement sur ces questions, car le compte n'y était pas à l'Assemblée nationale, ni hier, ni encore aujourd'hui au QAG.
Les députés qui ont adopté cette nuit en commission le projet de loi d'urgence pour Mayotte, 1 mois après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts. Le texte qui vise à accélérer la reconstruction de l'archipel doit maintenant arriver dans l'hémicycle lundi, avant que le Sénat ne se penche dessus le 3 février, mais il ne convainc pas franchement tout le monde. Marie Cazadebé.
Le projet de loi comprend une 20aine d'articles consacrés à la reconstruction des écoles, des infrastructures et des logements. L'un d'eux permet pendant 2 ans de passer outre les nombreuses règles du code de l'urbanisme pour faire sortir de terre au plus vite des hébergements d'urgence. Pour ce qui est des écoles les plus endommagées, l'État se substituera aux collectivités locales qui ont normalement la charge des établissements scolaires. Tout un pan de ce texte est également consacré au foncier, un sujet complexe à Mayotte où les terrains sont rares et les propriétaires difficiles à identifier. Cette loi d'urgence pourrait donc permettre l'usage d'un terrain avant même de savoir à qui il appartient et d'indemniser son propriétaire après coup. Pour les deux députés de Mayotte, ce projet de loi passe à côté du sujet essentiel, celui de l'immigration, dans un archipel qui compterait près de 100 000 étrangers pour une population officielle de 320 000 habitants. Le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls, promet pour le mois de mars des mesures à plus long terme. Et avant cela, une proposition de loi examinée le 6 février, elle prévoit de durcir encore l'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers.
Marie Cazadebé, Mayotte, où la rentrée scolaire des élèves se fera à partir du 27 janvier. C'est ce qu'indiquait ce soir Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, dans une interview au journal Le Parisien. Une quarantaine d'écoles restera néanmoins fermée car trop endommagées. Ni la France ni l'Algérie n'ont intérêt à ce que s'installe une tension durable entre elles. Déclaration aujourd'hui de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, interrogé à l'Assemblée, a réaffirmé qu'il était prêt à se rendre à Alger alors que le torchon brûle depuis l'été dernier, l'annonce du soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, mais aussi après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Que s'est-il passé à Tripoli en 2005 sous la tente? Les juges ont tenté de savoir aujourd'hui au procès du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le tribunal a commencé aujourd'hui à évoquer le moment clé, celui où aurait été conclu le fameux pacte de corruption entre l'ancien président et Muammar Kadhafi. Deux témoins en fonction diplomatique à Tripoli à l'époque, un ancien ambassadeur et un ex-commissaire ont été entendus. Compte rendu d'audience avec Laura Martel.
Jean-Luc Sibiud, ex-ambassadeur, n'a aujourd'hui aucun souvenir de la visite de Claude Guéant. Une visite censée préparer celle de Nicolas Sarkozy, considérée elle comme très importante par les Libyens, conscients d'avoir affaire à un potentiel futur président, souligne-t-il. À cette occasion, un bref aparté aurait eu lieu entre Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi sous la tente, selon l'autre témoin du jour, le commissaire. Mais l'ex-ambassadeur affirme lui que les deux hommes se seraient éloignés une trentaine de minutes pour un entretien exclusivement privé avec leurs interprètes. À l'époque, il n'avait pu en savoir plus, la traductrice française lui opposant le secret professionnel. Pour l'accusation, c'est là qu'aurait été noué le pacte de corruption. Parmi les contreparties envisagées, le parquet pointe le sort juridique d'Abdallah Senoussi, ex-patron des renseignements condamné à perpétuité en France pour l'attentat contre le DC-10 du TA. Or, et Claude Guéant et Brice Hortefeux ont reconnu l'avoir rencontré lors de leur visite. Ils affirment avoir été piégés. Mais il semble difficile pour un ministre d'ignorer la situation de M. Senoussi, relève un juge. Oui, surtout quand on va en Libye, complète l'ambassadeur dans un sourire. Le diplomate souligne d'ailleurs que pour lui, la visite de Brice Hortefeux n'était pas banale et l'avait d'autant plus surpris que l'intérêt des Libyens pour les collectivités locales, le portefeuille de Brice Hortefeux, était très limité, remarque-t-il.
Laura Martel. Plus de 2700 tonnes, c'est la quantité de cocaïne proposée sur le marché mondial en 2022, un record selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et en France, ce sont 1 100 000 personnes qui en ont consommé au moins une fois l'année dernière. C'est quasiment deux fois plus qu'un an plus tôt, d'après les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Qui sont les consommateurs? Ivana Obradovic, directrice adjointe de l'OFDT.
Le profil des consommateurs de cocaïne s'est diversifié, justement. C'est une des informations importantes des 10-15 dernières années. On trouve des consommateurs à la fois en milieu urbain, dans les petites et moyennes villes, et aussi en milieu rural. Les catégories professionnelles où on a le plus de consommation, ça peut être par exemple le secteur de la restauration, ou toutes les professions qui sont soumises à des conditions de travail difficiles, avec beaucoup de pénibilité au travail, des horaires décalés, des cadences importantes. Voilà, c'est typiquement le type de profession qui va être plus exposé à la consommation de cocaïne. Le profil type de l'usager aujourd'hui, c'est quand même des adultes, c'est-à-dire que c'est pas du tout une problématique qu'on trouve chez les adolescents. Ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, chez les adultes, en particulier entre 25 et 45 ans, on a un pic de consommation. C'est vraiment les tranches d'âge qui sont les plus concernées aujourd'hui.
Des propos recueillis par Olivier Sherman. C'est le placement préféré des Français. Le livret A, son taux va baisser au 1er février. Il va passer de 3 à 2,4%, a fait savoir le ministère de l'Économie. Ce soir, un coup de pouce est néanmoins accordé aux plus modestes, ceux qui détiennent un livret d'épargne populaire. Il passera de 4 à 3,5% au lieu des 2,9% théoriquement prévus.
Dans l'Hexagone, aux Antilles et en Guyane, coup d'envoi demain et jusqu'au 15 février du recensement de la population. À Mayotte et La Réunion, ce sera du 30 janvier au 1er mars. Et cette année, une nouvelle question fait polémique. C'est la numéro 7. Elle porte sur l'origine des parents. Inutile et dangereux, estime un collectif de défense des droits constitué de la LDH, la CGT, la FSU Solidaire et le MRAP. François Sautret, co-président du mouvement pour le rapprochement et l'amitié des peuples.
La première chose qu'on tient à dire, c'est qu'on appelle les gens à répondre au recensement qui est d'utilité publique. Mais cette année, l'INSEE a introduit une nouvelle question. Suite à une petite bataille, cette question est devenue facultative. Et cette question, elle porte sur lieu de naissance des parents. Donc, nous considérons qu'il y a une innovation préjudiciable. Nous ne voyons pas l'intérêt de cette question. Si c'est pour lutter contre les discriminations, on a tout ce qu'il nous faut déjà, par des sondages, par des enquêtes, etc. Aujourd'hui, en gros, nous disons que la seule force politique qui a intérêt à cette question, c'est le Rassemblement national et sa théorie du grand remplacement. Donc nous nous opposons complètement à cette question. On a obtenu que cette question devienne facultative, ce qui est exceptionnel. Et donc on appelle les gens de ne pas répondre à cette question. Nous, c'est nous. Nos parents, c'est nos parents.
Un propos recueilli par Aram Beng. On termine ce journal avec les sports et la Coupe de France de foot. Trois clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer ce soir en 16e de finale. Et la défaite la plus retentissante, c'est celle de Lyon, éliminée par le petit club de National 3 de Bourgoin-Jallieu au tir au but. Les Bergaliens peuvent remercier leur gardien, Ronan Jay, qui a repoussé les deux premières tentatives lyonnaises d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.
Aujourd'hui, on vient de réaliser quelque chose qui va nous marquer à vie, qui va nous unir toute la vie, tous ensemble. Donc c'est incroyable et il faut donner du crédit à tout le monde, que ce soit au staff, aux joueurs, à la mairie, à tous les bénévoles qui sont là aussi pour encadrer. Parce que c'est pas qu'une victoire des joueurs, c'est une victoire aussi d'un club et d'une ville. Il suffit de regarder les cotes avant le match, hein, on n'était pas favoris, ça c'est sûr. Mais on a été tous solidaires, tous ensemble. Il y a eu beaucoup d'abnégation, parce qu'il y a eu des moments très durs. Quand une personne faisait une erreur, l'autre la rattrapait. Donc voilà, on a représenté les valeurs de la ville, les valeurs du club. Et on espère, voilà, là on va se donner encore un tirage et voir un petit peu ce qu'on va faire. Profiter de la soirée quand même, ce qu'on vient de faire, c'est pas anodin. Peut-être qu'elle se reproduira jamais. Mais il faut profiter et se remettre au travail un petit peu après. Mais bien profiter surtout.
Et les autres scores du jour, victoire de Cannes de Buzyn sur Lorient. Brest s'est imposé sur le même score face à Nantes. Défaite de Rennes à 3, 1-0. Laval s'est incliné sur la pelouse de Toulouse, 2-1. Paris se qualifie pour les huitièmes en battant Espaly, 4-2. Il est 18h12 à Pointe-à-Pitre, 2h12 à Saint-Denis de La Réunion.
24 heures en France. Alban Le Prince.
Et l'invité culture n'est autre qu'un ancien sociétaire de la Comédie Française. Rien que ça, Laurent Lafitte est à l'affiche du 4e mur, sorti aujourd'hui au cinéma. Adaptation du roman de Sorge Chalandon, c'est l'histoire de Georges qui, en 1982, pour respecter la promesse qu'il a faite à un ami, se rend à Beyrouth pour mettre en scène Antigone, sans se rendre compte que les conflits politiques et religieux du pays vont finir par le rattraper. Laurent Lafitte est au micro d'Elisabeth Le Carré.
Laurent Lafitte, bonjour.
Bonjour.
Dans le 4e mur, vous êtes Georges qui part à Beyrouth en pleine guerre civile en 82. Il veut en fait tenir une promesse faite à un ami, rassembler un casting de plusieurs communautés pour jouer Antigone. C'est un film sur l'amitié, sur une certaine vision de l'art capable de transcender les conflits. Est-ce qu'il y a une forme d'utopie aussi dans ce projet ?
Oui, mais l'utopie, je pense que c'est une des missions des artistes, mais pas comme quelque chose de vain, pas comme quelque chose de puéril ou d'irréaliste. L'utopie comme un rappel parfois de ce qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'atteindre. Et là, c'est vrai que Georges a cette mission qui s'est fixée par amitié, de monter Antigone avec toutes ces communautés qui s'affrontent au moment de la guerre civile.
Antigone de Jean Anouilh, ouais, en tant que figure qui s'oppose à l'autorité, quel plus beau film à monter dans ce contexte ?
Oui, d'ailleurs, vous avez dit film et pas pièce, parce que c'est vrai qu'il y a une mise en abîme un peu, parce que ce qu'on fait dans le film, c'est un peu ce que Georges essaie de faire en montant sa pièce. C'est-à-dire que nous aussi, on a réuni des gens de communautés différentes pour fabriquer ce film. Sauf que nous, on y est allé en temps de paix, puisqu'on y est allé, on a tourné le film il y a 2 ans.
C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas ?
Oui. Vous venez pour le théâtre ?
Toutes les communautés sont partantes.
Français, French.
Maronites, chiites, druzes, palestiniens.
J'y comprends rien, moi, à cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban.
Ça va être très bien.
Merci.
Quand tu
arrive dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça?
Ouais.
Vous, Laurent Lafitte, en tant qu'acteur, mais aussi en tant que metteur en scène de théâtre, entre autres, est-ce qu'il y a une part de Georges en vous?
Ah oui, je pense qu'il y a une part de Georges dans tous les acteurs et même plus largement dans tous les artistes. Et je pense que tous les acteurs, à un moment, se posent cette question. Ouais.
Georges, c'est un sacré défi à jouer parce que c'est un personnage. Alors, c'est typiquement le poisson hors de l'eau, c'est aussi le Candide voltairien, c'est-à-dire il arrive dans ce pays qu'il ne connaît pas. Donc, il est complètement dépassé par la situation.
C'est vrai que c'est un rôle qui est chargé de beaucoup de choses. Et puis, surtout d'une responsabilité, alors qui est presque plus celle du metteur en scène, David Holofernes, c'est quand même il y a un devoir d'exactitude. Quand on raconte des faits dramatiques et qui se sont vraiment déroulés, il y a quand même un devoir de précision et de pudeur. C'est ce que David a réussi à faire, notamment par le fait qu'on ait tourné le film à Beyrouth et pas ailleurs.
Laurent Lafitte, vous avez tourné il y a 2 ans à Beyrouth, donc le pays n'était pas en guerre, mais par contre, il traversait une crise très grave.
Bah, c'était difficile parce que déjà, la ville est difficile. C'est un pays qui se... Ce sont des citoyens qui doivent se démerder, quoi. Et ça se sent dans l'énergie et dans la manière de travailler.
Qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui après avoir lu le scénario?
La puissance de l'histoire. Je n'avais pas lu le livre de Sorge, donc j'ai découvert cette histoire à travers le scénario. C'est quand même une histoire presque, enfin vraie, on va dire. Sauf que Sorge Chalandon n'est pas metteur en scène, il était reporter de guerre quand il a vécu cette histoire. Et je ne sais pas s'il avait les enjeux romantiques de mon personnage, mais en tout cas, il était à Beyrouth au moment des massacres de Sabra et Shatila. C'est un moment qui a totalement bouleversé sa vie et qui il était, je pense. En tout cas, quand il en parle, moi, c'est ce que je ressens.
Laurent Lafitte, merci beaucoup.
Merci.
Laurent Lafitte à l'occasion de la sortie aujourd'hui au cinéma du 4e mur, film de David Holofernes, adapté du roman de Sorge Chalandon.
Reportage France.
C'était aussi au cinéma en octobre dernier l'histoire de Souleymane, film dans lequel on suivait ce livreur demandeur d'asile. C'est en fait l'histoire de milliers de coursiers en France. Pour eux, la maison des coursiers a ouvert à Paris. 4 jours par semaine, ils peuvent s'y reposer entre 2 livraisons, mais aussi s'informer sur leurs droits grâce à une permanence juridique et administrative. Sylvie Coffi y est allée pour RFI.
C'est un lieu qui passe inaperçu, pourtant situé dans un quartier très populaire, avec de nombreuses boutiques de beauté afro. La maison des coursiers se trouve dans l'ancienne agence EDF, réaménagée.
Il y a une grande salle où les livreurs attendent, il y a du café, du thé, de quoi se restaurer, un micro-ondes, il y a des toilettes, il y a des prises pour pouvoir charger ses téléphones ou ses batteries. Je suis Circe Liénard, je suis coordinatrice de la maison des coursiers et j'ai été là dès l'ouverture en septembre 2021. Et on donne directement sur le boulevard Barbès pour que ce soit simple pour les livreurs de venir et de potentiellement mettre aussi leur vélo en sécurité.
On vient parfois prendre du temps ici, se mettre au chaud, surtout dans ces moments de fraîcheur. Voilà. Profiter pour prendre un petit café.
Vous avez garé votre vélo?
Ah oui, justement, pour le mettre en sécurité. Hein.
Dans la salle aux couleurs vives, tout est fait pour les aider dans leur démarche. Chacun a ses habitudes, s'installe, prend son repas, comme ce livreur ivoirien. Ladji termine son attiéké poisson en attendant son rendez-vous.
Bon, je viens ici pour plusieurs démarches. Hein. Plusieurs. Je n'ai pas dit tout même. Pour envoyer mes CV chez les entreprises et prendre rendez-vous aussi à la préfecture. La CAF, Sécurité sociale, tout, je viens régler tout ici.
Ces livreurs à vélo multiplient les heures de travail en prenant des risques. Retrouvons Circe Liénard, responsable de la maison des coursiers.
On va les accompagner sur l'accès aux droits de santé, parce que c'est très important que s'ils ont un accident, ils puissent quand même se faire soigner. C'est un métier quand même assez accidentogène, et il y a d'autres risques de santé, de problèmes de santé qui sont liés.
Et j'étais là, je suis venu voir l'infirmière, j'avais rendez-vous avec elle, pour avoir des bilans sur ma santé concernant le travail. Souvent des maladies musculaires ou des infections, parfois, tout ça. C'est vraiment dû, mais on n'a pas le choix, parfois. Voilà.
Ces livreurs sont souvent dans des situations précaires.
Au début, on avait une grande majorité de personnes en situation irrégulière, parce que la difficulté, c'est que les livreurs travaillent, et travaillent même beaucoup plus que les travailleurs salariés en général, mais ils n'ont pas accès à la régularisation par le travail, puisque le compte n'est soit pas à leur nom, soit même quand le compte est à leur nom, ils ont des factures et pas des fiches de paye, et ça, les préfectures ne permettent pas la régularisation par le travail avec ça, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une surreprésentation par rapport à d'autres métiers.
La première fois que tu viens ici ?
Hier, je suis venu. Ouais, okay, donc, on m'a donné rendez-vous pour venir aujourd'hui. Ouais.
Après Paris et Bordeaux, d'autres maisons de ce type sont en projet à Lille et à Grenoble.
Si je te donne ça, c'est bon. Non ?
La maison des coursiers qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris, elle est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 18h. Il est 23h19 à Paris, 9h19 à Nouméa.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonsoir Benoît Ferrand, c'est officiel, en Nouvelle-Calédonie, un Wallisien va prendre la tête du diocèse.
Bonsoir. Archevêque de Nouméa depuis 1981, Monseigneur Michel-Marie Calvé, 80 ans, prend sa retraite et il est remplacé par l'évêque de Wallis et Futuna qui vient, quant à lui, de fêter ses 60 ans, Stephen Nippat.
Nouméa tourne une page majeure de son histoire religieuse. Après 43 ans d'épiscopat, Monseigneur Michel-Marie Calvet, figure historique de l'Église calédonienne, cède sa place à Monseigneur Susitino Sionepoe, nommé par le pape François ce 14 janvier. Né en 1965 à Vaitupu, Wallis et Futuna, Monseigneur Sionepoe a suivi des études de philosophie et de théologie au séminaire régional du Pacifique avant d'être ordonné prêtre en 1993. Il a ensuite exercé son ministère dans des diocèses de Tonga et de Nouvelle-Calédonie, notamment à Puebo et à Kumak. Après une formation complémentaire en Europe, il est retourné dans le Pacifique où il devient supérieur des maristes à Wallis et Futuna en 2012, puis évêque de cet archipel en 2018. Il arrive aujourd'hui à la tête d'un diocèse calédonien secoué par des violences récentes, notamment les incendies d'églises en 2024, dans un contexte de réformes électorales contestées. Avec une population composée à 50% de catholiques et 30% de protestants, le rôle des églises comme acteur d'apaisement est crucial. Le 12 avril prochain, à la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa, Monseigneur Sionepoe prendra officiellement ses fonctions lors d'une célébration solennelle. Avec humilité et détermination, il s'apprête à guider l'Église catholique calédonienne sur un chemin de réconciliation et d'espérance dans une région où religion, coutume et État restent profondément liés.
Nouvel archevêque en Nouvelle-Calédonie, nouveau préfet pour la Martinique. Étienne Desplanques, 44 ans, va quitter la Corrèze pour rejoindre Fort-de-France où il va succéder à Jean-Christophe Bouvier. Le nouveau représentant de l'État en Martinique connaît bien les dossiers ultramarins. Audrey Govindin.
Étienne Desplanques n'est pas un inconnu de l'outre-mer et encore moins des Antilles, puisqu'il a été directeur de cabinet du préfet de Guadeloupe de 2009 à 2012, puis directeur de cabinet du délégué général aux Outre-mer. Étienne Desplanques est décrit comme un spécialiste des dossiers ultramarins et nommé directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer entre 2012 et 2014. Diplômé de Sciences Po en 2003, puis de l'École nationale d'administration en 2007, Étienne Desplanques est affecté en 2009, au moment de la grève générale en 2009 en Guadeloupe, comme directeur de cabinet du préfet. Il est ensuite nommé sous-directeur en charge des politiques publiques en 2017. Il se consacre au plan logement des Outre-mer, aux négociations européennes, notamment des fonds structurels, aux contrats de développement et de transformation, mais travaille également à la réforme des aides économiques et de l'octroi de mer. Après 3 ans au ministère des Outre-mer, il est nommé secrétaire général de la préfecture des Yvelines en août 2020, avant de rejoindre la Corrèze en 2022 en tant que préfet. Et c'est aussi un originaire de la Bretagne qui arrive en eau martiniquaise, Étienne Desplanques à 44 ans.
Direction Saint-Pierre-et-Miquelon pour terminer. Saint-Pierre-et-Miquelon où lentement, mais semble-t-il inexorablement, la population diminue. Ce que confirment les derniers chiffres de l'INSEE, la tendance à la baisse serait même en train de s'accélérer. Ninog Louis.
L'archipel a perdu 54 habitants entre 2021 et 2022, 106 en 2 ans, une baisse importante et surtout de plus en plus rapide. Depuis 2019, Saint-Pierre-et-Miquelon perd en effet 5 fois plus d'habitants chaque année qu'avant cette date. Autre chiffre pour illustrer cette tendance, la population baisse de 0,3% par an en moyenne depuis 1999, mais en 2021 et 2022, cette baisse atteint 0,9%. Et la pyramide actuelle des âges n'est pas vraiment favorable. En 1999 encore, un habitant sur 5 était âgé de 15 à 29 ans. Ils ne sont plus que 13% aujourd'hui. En revanche, un quart des habitants de l'archipel a désormais plus de 60 ans. Et depuis 2016, le nombre de décès dépasse systématiquement celui des naissances. L'an dernier, 26 bébés ont vu le jour à la maternité de Saint-Pierre, contre 59 10 ans plus tôt, pour quasiment le même nombre de décès, 51 et 52. Au-delà des conséquences démographiques, cette baisse peut avoir un impact à moyen terme sur notre quotidien, car ces chiffres de recensement servent de référence pour le calcul des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales. Et moins d'habitants signifie aussi moins de recettes fiscales pour la collectivité.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
On vous en parlait déjà hier. Devenir parent peut représenter un grand chamboulement, d'autant plus lorsqu'on est en situation de handicap. Changer une couche, apprendre à donner un bain peut être un peu plus compliqué que pour d'autres. C'est le sujet évoqué ce soir par Caroline Paré.
Aujourd'hui dans Priorité Santé, second volet d'un reportage long format de Charlie Dupiot sur la parentalité et le handicap. Alors pour cette deuxième illustration, on part au Cameroun et au Gabon. Bonjour Charlie Dupiot.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et vous avez recueilli des témoignages de parents handicapés.
Oui, et notamment celui de Ghislaine qui vit à Libreville. Elle est atteinte de poliomyélite depuis l'enfance et cette mère célibataire de 5 enfants est partiellement paralysée. Elle se déplace en béquille.
L'handicap, c'est pas une fatalité. Il faut d'abord se faire accepter soi-même. Je suis handicapée. Je suis une femme. Je lance vraiment l'appel à toutes les femmes handicapées du monde entier. Que la seule chose qui peut remplacer nos membres aujourd'hui, nos yeux, nos oreilles, parce qu'il y a des handicapés sensoriels, ce sont nos enfants. Parce que ce sont eux qui seront à tes côtés. Regardez ici, si je tombe malade tout de suite, est-ce que mon voisin là saura que je suis malade à la maison? Non. Mais nous, les personnes vivant avec un handicap, nous avons besoin de l'aide. Et l'aide le plus fidèle, ce sont nos enfants.
Et Ghislaine, cette mère handicapée, m'a même dit « Mes enfants sont les pieds et les jambes que je n'ai pas eus ». Elle, qui est donc atteinte de poliomyélite et qui a des difficultés pour marcher, elle a ajouté « C'est un devoir pour eux de m'aider, c'est leur devoir ».
Et pour entendre le récit de Ghislaine à Libreville et les témoignages d'autres parents en situation de handicap, au Gabon, au Cameroun, votre reportage à 9h10 et 1h10, temps universel, et à retrouver bien sûr en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Merci Charlie Dupiot.
Et comme d'habitude, tout est bien noté. C'est bientôt la fin de 24 heures en France. Merci d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. François Ballarin, rédacteur en chef de cette édition. Valentin Vaner à la réalisation. Dans 3 minutes, tout pile, le retour de l'actualité africaine avec Zéphirin Quadio. On ira au Mozambique pour l'investiture aujourd'hui de Daniel Chapo, le président. Mais avant, on file à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones bondit de 703 points, ce qui le ramène à 43 222. Et l'indice du Nasdaq, en regagnant 467 points, revient à 19 511. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre était très attendu et il se révèle moins mauvais que prévu. Si l'on ne tient pas compte des prix de l'énergie, des prix des produits alimentaires, le gain de l'indice n'est que de 0,2%, après 4 mois consécutifs de 0,4% de hausse. Cela toutefois n'est pas suffisant pour inciter la Banque centrale américaine à reprendre ses baisses de taux directeurs, surtout dans le contexte de solidité de l'embauche par les entreprises américaines. Toutefois, la crainte d'une réaccélération de l'inflation aux États-Unis se calme un peu. Toutes catégories confondues de biens et services, la hausse des prix aux États-Unis en décembre est encore de 0,4%, ce qui franchement n'est pas satisfaisant. Il s'agit même de la plus forte hausse depuis 9 mois. Le rendement du T-bond à 10 ans dans ce contexte plonge, en tout cas, à 4,65, ce qui naturellement a soutenu aujourd'hui les actions. L'autre raison derrière les hausses des actions aujourd'hui, des résultats trimestriels meilleurs que prévus annoncés par de grandes banques, en particulier JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et Goldman Sachs. L'optimisme a contaminé le marché pétrolier, le cours du baril américain de brut reprend près de 4% et repasse au-dessus de $80, d'autant que les stocks américains de pétrole recule à nouveau. L'euro retombe à $1,0295. Porté par des valeurs bancaires, pétrolière et aussi par les valeurs de la technologie, le Dow Jones grimpe d'1,7% et le Nasdaq décolle de 2,5%.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, 2025 sera marqué par le 20e anniversaire de l'accession au pouvoir de Fornia Simbé, l'occasion pour quatre partis de l'opposition et le Front Citoyen Togo Debout de réclamer une alternance politique. Ce scénario est-il réalisable?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.